Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Je suis Tiffaine, votre animatrice, et vous écoutez Culture Trip, l'émission culturelle à 360 degrés sur Radio Gaco. Une émission produite et réalisée par les étudiants du DUT Gestion administrative et commerciale des organisations de l'IUT du littoral Côte d'Opale de Saint-Omer. En raison des conditions sanitaires, nous enregistrons donc notre émission à distance. Aujourd'hui, nous recevons Emeline et Coraline. Bonjour à vous.
Bonjour.
Elles vont donc nous parler de la slow fashion et de l'art contemporain en France. Alors, Coraline, nous vous écoutons.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la slow fashion. La slow fashion est un terme anglais qui signifie mode lente en français. Celle-ci correspond à la fabrication ainsi qu'à la consommation d'articles de mode raisonnée et raisonnable. Des événements ont lieu pour faire parler de cette mode lente. À l'exemple de la Slow Fashion Season, qui est une campagne qui a lieu tous les étés depuis 3 ans maintenant. Elle consiste à consommer de façon ralentie du 21 juin au 21 septembre. L'an dernier, plus de 14 000 personnes ont participé et se sont engagées durant tout l'été. Dans cette chronique, je vais vous montrer pourquoi et comment opter pour la slow fashion. Tout d'abord, partons du contraire de la slow fashion, soit la fast fashion qui signifie la mode rapide. Cette mode se réfère aux grandes enseignes de la mode qui proposent des vêtements fabriqués à vitesse grand V avec des matières de mauvaise qualité. La fast fashion pousse à une consommation rapide et peu réfléchie de par le prix bas des articles proposés. Dans un article MSN s'intitulant « Zoom sur la slow fashion », nous voyons très clairement les principales conséquences de la fast fashion. Première conséquence, nous avons de la pollution. En effet, l'industrie de la mode crée 1,2 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Également, la fabrication de vêtements décharge 1,5 million de tonnes de microfibres dans l'océan chaque année.
Excusez-moi Coraline, mais 1,5 million de tonnes, c'est énorme, non ?
Eh oui, effectivement, cela correspond à environ 50 milliards de bouteilles en plastique. Ensuite, en deuxième conséquence, nous avons les lois contre le travail des enfants qui ne sont pas respectées, notamment dans des pays comme la Chine ou encore le Bangladesh. De plus, autre conséquence qui suit avec celle précédente, il s'agit des salaires faibles, sous-payés. Ils détiennent une main-d'œuvre peu, voire pas qualifiée, et ces travailleurs sont à 80% des femmes de couleur.
Et qu'en est-il donc du slow fashion ?
Eh bien, le concept de slow fashion voit le jour dans les années 2010. La slow fashion consiste notamment pour les entreprises à utiliser des matériaux de haute qualité. Dans les journaux en ligne Nice Matin ainsi que Drapers, nous avons 2 exemples d'entreprises qui ont opté pour la slow fashion. L'entreprise digitale Thelma Rose, qui utilise pour ses vêtements des matières certifiées Ecotex, ou encore l'entreprise Studio H, qui a opté pour une production éthique et consciente.
D'accord. Et si demain, une entreprise voudrait se mettre au slow fashion ou même un de nos auditeurs, comment faudrait-il qu'il s'y prenne ?
Alors, du côté du producteur, il y a 3 options. Créer moins souvent, en petite quantité et de meilleure qualité. En revanche, du côté du consommateur et donc de nos auditeurs, il y a différentes options visibles dans l'article 5 conseils pour la slow fashionista en herbe de MSN. En effet, les options sont les suivantes. Acheter local, le made in France par exemple, faire des DIY, do it yourself, c'est-à-dire créer soi-même ses propres vêtements, utiliser des applications de seconde main comme Vinted, Le Bon Coin, United Wardrobe, faire les brocantes, les friperies ou encore une option très simple, prendre soin de ses vêtements.
Comme quoi, avec des gestes très simples, tout le monde peut se mettre à la slow fashion.
Exactement. Et si vous voulez encore plus de conseils ou encore d'informations sur la slow fashion, je vous invite à consulter le livre Slow Conso de Caroline de Surani qui donne des conseils sur la mode ralentie à propos de la mode de beauté avec une pointe d'humour. Si vous êtes active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube, des influenceuses comme Tess Peel ou encore Clara Victoria ayant opté pour la slow fashion partage ce mode de vie et quelques petits conseils.
Alors, merci Coraline pour ces précieux conseils et toutes ces informations sur le slow fashion. je pense, qui intéresseront fortement tous nos auditeurs. Et maintenant, nous allons passer au sujet suivant avec Emeline. Alors Emeline, nous vous écoutons.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur notre émission de Radio Culture Flip. Je m'appelle Emeline et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'art contemporain et du public en France.
Alors Emeline, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'art contemporain ?
Bien sûr, l'art contemporain produit de 1945 à nos jours. Il succède à l'art moderne. L'évolution de l'art contemporain permet aux artistes de créer et d'exposer leurs œuvres à ciel ouvert. C'est une nouvelle façon de découvrir l'art contemporain. La question que je me suis posée est, comment les artistes font-ils pour faire réagir le public en dehors des musées traditionnels ? Abordons dès à présent les enjeux. Les artistes essayent de rendre la découverte de l'art attractive et ludique en créant des mini-jeux, tels que des jeux de piste, par exemple sur la côte, des mosaïques ont été installées face à la mer, et grâce à un jeu de piste, nous pouvons partir à leur recherche. Cette façon ludique est très intéressante, car les enfants, mais aussi les adultes, prennent plaisir à découvrir l'art au travers de ces jeux. Je me suis inspirée d'un article écrit en 2020 par Ouest France, intitulé « L'art dans la nature, un vrai musée en plein air ». Certains musées sont d'un genre nouveau.
Et pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces musées d'un genre nouveau ?
Bien sûr, ce sont des musées situés en extérieur. En effet, les œuvres exposées sur les façades ou au fil des sentiers sont entièrement gratuites. Dans Le Parisien, on nous donne l'exemple du boulevard Vincent Auriol. On retrouve des fresques sur les façades des immeubles avec des couleurs vives, ce qui apporte de la gaieté. De plus, ces musées sont accessibles à tous par le fait que toutes ces fresques ou ces œuvres sont situées en pleine nature ou sur les façades des immeubles. Même en cette période de crise sanitaire, chacun peut en profiter au cours d'une promenade. Exemple illustré par Ouest France et Le Parisien, nouvelle page pour le musée du street art à ciel ouvert du XIIIe siècle. Mais l'art peut également être en étroite relation avec la technologie.
Ah bon, mais comment est-ce que les artistes y peuvent concilier art et technologie ?
Le dragon de Calais, qui provient de la Compagnie du Dragon, me permet d'illustrer cet argument. Ce dragon coloré, d'une carrure impressionnante, crache de l'eau, de la fumée, du feu et émet des bruitages. La promenade sur son dos nous permet de découvrir ce chef-d'œuvre de technologie et de manipuler certaines de ses commandes. C'est un bel exemple d'art ludique qui intéresse les plus jeunes comme les plus âgés.
Alors, cet art, est-ce qu'il présente des limites ?
Bien sûr, c'est pour cela que nous allons maintenant évoquer les limites de cette évolution. Certaines expositions d'œuvres sont éphémères. Illustration possible grâce à 20 minutes et l'article Lyon. Le graphe s'expose en version XXL lors du Zoo Art Show. Les graffeurs s'installent dans des bâtiments abandonnés pendant quelques semaines afin d'exposer leurs fresques. Mais parfois, il faut faire attention à ne pas heurter la sensibilité du public. Les habitants qui vivent au milieu de ces œuvres ou qui ont une vue directe sur ces fresques ne doivent pas se sentir agressés par ces ouvrages, propos illustrés dans Le Parisien par Christine Henry. Car, en effet, la culture de rue était synonyme de vandalisme dans le passé. À l'appui de cet argument, Le Parisien, Lyon, le graphe s'expose en version XXL. Je trouve personnellement que ce sujet est captivant, car elle nous explique comment les artistes font pour intéresser le public. Je trouve que créer des mini-jeux comme les jeux de piste est très attrayant. Cela permet de rendre la découverte de l'art plus amusante et plus ludique. C'est un bon moyen de découvrir l'art en dehors des musées. Les fresques et les graffitis ont évolué. Ils ne sont plus perçus comme des tags, c'est devenu un art à part entière. De plus, cet art est gratuit et la plupart des activités se déroulent en extérieur, ce qui permet de découvrir de nouvelles choses sans avoir à dépenser de l'argent. L'art est donc devenu accessible aux différents publics.
Eh bien, dites-moi, Emeline, c'est un sujet très intéressant et qui nous permet complètement de sortir de la situation actuelle. Mais auriez-vous un ouvrage à conseiller à nos auditeurs qui souhaiteraient plus d'informations sur ce sujet ?
Bien sûr, je vous conseille donc l'ouvrage de Catherine Millet qui s'intitule « L'art contemporain en France ». Dans cet ouvrage, vous pourrez retrouver des illustrations d'œuvres ainsi que des explications. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel article culturel. Bonne journée à tous.
Et voilà, chers auditeurs, comme vous l'avez compris, c'est malheureusement la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je remercie nos chroniqueuses de leurs interventions. Vous pouvez réécouter notre émission sur notre site www.studiogaco.fr et surtout n'hésitez pas à réagir sur notre compte Twitter Gaco Studio. En espérant vous retrouver très vite sur Culture Flip, l'émission à 360 degrés.